Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi, Marianne Paquette pour vous accompagner. J'espère que vous allez bien. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. On parle de méditation aujourd'hui. On en connaît de plus en plus les bienfaits. Du moins, on en entend parler. Gestion du stress, meilleure gestion des émotions également, meilleure concentration. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que la pratique de la méditation, ça peut même avoir un avantage compétitif pour les entreprises. En effet, il y a une étude qui a été menée au Québec et qui a démontré que sur une période de 6 ans, la pratique de la méditation, ça réduit de 5 % à 13 % les coûts de consultation médicale. Lorsqu'on connaît justement la charge de ces coûts-là, ben on sait que c'est une bonne affaire. Et en plus de ça, la méditation, ben ça peut améliorer les relations de travail, les échanges dans les réunions, ça peut développer la créativité. Donc, on peut le voir, ça a de nombreux avantages, autant pour les employés que pour les employeurs, et on en parlera davantage tout à l'heure avec Lucie Poitras, elle qui est présidente fondatrice et formatrice agréée de l'éthique par le cœur. Et puis, vous rappelez que le 17 octobre prochain, ce sera la journée mondiale du don d'organes et de la greffe, qui sert entre autres une journée importante parce que ça sert à informer le grand public au don d'organes et de tissus. Et on souhaite le faire en stimulant les discussions au sein des familles parce que, et ça, on le verra un petit peu plus tard dans l'émission, tout ça, ça favorise le don d'organes et de tissus. Un petit rappel, au Québec, il y a un peu plus de 1000 personnes qui sont en attente d'une transplantation. C'est beaucoup. Et puis, on en parle davantage à l'instant avec Micheline Cyr-Asselin, directrice générale de la Maison des greffés, l'INACIR. Micheline Cyr-Asselin, bonjour.
Bonjour Marianne.
Micheline, une journée importante qui est le 17 octobre, mais une journée importante qui a été également le 23 septembre, puisque vous avez soufflé 21 bougies sur le gâteau de la Maison des greffés, l'INACIR. Et c'est important aussi de rappeler qu'il y a à peu près un peu plus de 20 000 personnes qui ont bénéficié de vos services à travers ces années-là. Est-ce que vous avez des secrets?
Non, c'est que le secret peut-être de la Maison des greffés, c'est qu'on est unique en Amérique du Nord.
Ouais.
Donc, on est la seule maison qui peut héberger des personnes qui sont en attente ou qui reçoivent un don d'organes.
Ouais. C'est quoi les besoins de ces gens-là?
Les besoins de ces personnes-là, c'est que les greffes se font particulièrement à Montréal.
Mm-hmm.
Donc, ce sont des gens de région, donc qui habitent loin. Et ils doivent venir à Montréal pour recevoir leur don de vie, donc ils doivent se déplacer. Donc, la Maison des greffés est centralisée près de tous les hôpitaux où se fait des opérations, des transplantations. Donc, pour eux, c'est une bénédiction d'avoir une maison comme ça, surtout à prix abordable.
Oui, ben c'est ça, parce que il y a un avantage du point de vue monétaire. On évite le coût de l'hôtel, par exemple. Mais aussi, j'ai l'impression que c'est une maison qui nous accueille à un moment de notre vie où on peut être assez anxieux, assez stressé par l'intervention qui va se produire.
Tout à fait, parce qu'une greffe, les gens, pour eux, c'est de l'inconnu. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Puis ils arrivent à la maison des greffés tellement malades aussi. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Quand ils arrivent à la maison, ils peuvent attendre à la maison entre 6 mois et 1 an. Donc, c'est encore une longue période d'attente et c'est l'inconnu, c'est qu'est-ce qui va arriver, est-ce que je vais m'en sortir. Donc, c'est toutes des craintes qu'ils ont quand ils arrivent à la maison, mais de pas avoir la lourdeur monétaire.
Oui.
Parce que la Maison des greffés, c'est 25 $ par jour, par personne. Ça inclut l'hébergement, les repas. Fait que donc, on sait très bien que la maladie appauvrit les gens.
Mm-hmm.
Les gens malades peuvent pas continuer à vivre comme nous, on le fait. Donc, d'avoir ce souci-là financier de moins sur les épaules, c'est énorme pour eux.
Oui. Comment fonctionne, le fonctionnement? Là, une question où je me répète un petit peu, mais le fonctionnement, c'est-à-dire les gens vous appellent, demandent s'il y a de la place, des lits de libre, et est-ce qu'il y a de l'attente chez la maison?
Ça dépend des périodes. Il y a des périodes de temps où on doit refuser des gens, parce qu'on a quand même 27 chambres en occupation double. Et ce que ça veut dire, c'est que la Maison des greffés permet d'avoir une personne de la famille à son chevet. Ça veut dire, quand on est malade, on aime ça avoir quelqu'un de la famille avec nous.
Oui.
Et ça, c'est primordial. Ça, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, oui, il arrive des moments où on doit refuser des gens par manque de place.
Donc, j'imagine qu'il y aurait un souhait d'agrandir vos locaux.
Oui, il y aurait un souhait, mais la maison, de la façon dont elle est faite maintenant, on ne peut pas ni agrandir. On ne peut pas monter plus haut. On est déjà le plus haut, le maximum. Donc, c'est pour ça qu'on... Mais avec la technologie puis avec les recherches, les hôpitaux,
mm-hmm.
les attentes sont moins longues, les gens attendent moins longtemps. Et le fait de pouvoir promouvoir le don d'organes aujourd'hui fait en sorte qu'on peut sensibiliser les gens de plus en plus à le faire, à signer leur carte et en parler à la famille.
Micheline, combien de personnes vous pouvez accueillir?
54 en occupation, 27 patients plus 27 accompagnateurs.
Oui. Ouais. Et comme vous le disiez, l'accompagnateur a vraiment un rôle très, très important.
Crucial. Crucial parce que moi, j'ai accompagné ma mère qui a reçu une greffe. D'ailleurs, c'est la fondatrice de la maison.
Ouais.
Et je sais à quel point pour elle, c'est important d'avoir quelqu'un de la famille qui l'entoure parce qu'on peut donner du support, on peut donner du soutien. Parfois, on se sent quand même impuissant de ne pas pouvoir faire rien, mais quand même juste le fait d'être là, pour eux, c'est super important.
Donc, la maison accueille des gens qui sont en attente d'une greffe, mais aussi accueille les gens qui ont reçu la greffe et qui doivent venir pour des suivis, par exemple, ou j'imagine, bon, pour le rétablissement d'après. Est-ce qu'il y a un lien, une relation qui s'établit avec les professionnels de la santé?
Au niveau de la maison des greffés?
Oui.
Bien, nous, on travaille en étroite collaboration avec tous les hôpitaux qui nous desservent. Donc, c'est sûr qu'on a un très bon lien, un bon contact entre nous. Et c'est aussi une bonne façon de supporter les patients dans leur attente ou leur convalescence. Donc, on est présent. On est très, très présent et très près des médecins, des infirmières, des équipes de transplantation dans les différents hôpitaux.
Oui. Vous le disiez tout à l'heure, Micheline, il y a beaucoup d'années d'attente avant une greffe. Qu'est-ce qui explique ça?
Je vous dirais, c'est le processus. Ça dépend aussi de l'organe qui est attendu. Moi, le plus long que j'ai vu, c'est les gens en attente de poumons. Parce qu'à cause des poumons, il y a le groupe sanguin, mais aussi, il ouvre la cage thoracique pour sortir les poumons. Donc, il y a la grosseur des poumons aussi qui est importante.
Mm-hmm.
Puis, il y a le groupe sanguin. Donc, ça, c'est un peu plus difficile. Par contre, comme je vous dis, la majorité des gens, c'est entre 6 mois et 1 an. Qui se rapprochent de Montréal, parce que quand ils reçoivent le rappel, qu'ils soient à 2 heures de l'hôpital.
Mm-hmm.
Fait quelqu'un qui est à 12 heures de route ne pourrait pas recevoir sa greffe.
Donc,
c'est une des raisons pourquoi ils doivent se rapprocher des centres hospitaliers.
Oui. Et on le rappelle, la maison des greffés, l'INACIR, est sur l'île de Montréal, donc ça facilite ces échanges-là. Je le disais tout à l'heure, un peu plus de 1 000 personnes qui sont en attente ici au Québec d'une transplantation, que ce soit organes, tissus. Et c'est quand même... Bon, ici au Québec, on est très, très sensibilisés. Notamment, il y a une journée, le 17 octobre. Mais en plus, on a l'impression que tout le monde est sensibilisé, tout le monde est d'accord à pouvoir offrir ses organes en cas de décès. Mais pourtant, il y a quand même des gens qui sont en attente.
Oui.
Est-ce que c'est parce que la petite carte, on ne la signe pas autant qu'on le dit bien?
Oui, il y a des gens qui omettent de la signer par oubli ou pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore réticentes à signer leur carte. Je vais vous raconter une petite histoire. Une jeune d'à peine 18 ans qui avait eu à l'école un reportage sur le don d'organes. Quand elle est arrivée à la maison, elle a dit à ses parents, « Moi, je veux donner mes organes. Moi, je veux, si je décède, je veux les donner. » Les parents étaient plus ou moins d'accord avec ça parce qu'ils n'étaient pas rendus là et n'étaient pas prêts à ça. Sauf que quelques semaines plus tard, la jeune fille est décédée dans un accident de voiture. Mmh. Et ses parents ont respecté...
Son souhait.
Oui, oui, son souhait de donner ses organes. Et c'est ça. C'est là l'importance d'en parler avec sa famille, de leur dire, c'est quoi, moi, c'est ce que je veux faire. Moi, j'en aurais plus besoin. Donc, si je peux donner la chance à quelqu'un d'autre de vivre, bien oui, je vais les donner mes organes.
Oui, parce que j'imagine que le problème, au-delà de la carte, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on n'exprime peut-être pas suffisamment à nos proches, notre famille, nos conjoints, nos dernières volontés. Parce que, bon, c'est difficile de parler de ça, hein, parce qu'il faut aborder la mort, notre décès, mais en même temps, parce qu'on n'y pense pas. Hein, on se dit, ah, c'est loin, c'est pas tout de suite. Et pourtant, il faudrait le faire lorsqu'on est en vie et en santé.
Tout à fait. Ça fait parce qu'on ne sait jamais à quel moment vous, moi ou quelqu'un de près de nous va avoir besoin d'une greffe. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sensible à ça, il faut être sensibilisé. Puis, de signer sa carte, ça peut sauver 8 vies.
Ouais.
Donc, c'est pas rien.
Oui. Micheline, vous côtoyez des greffés, les gens qui sont bien sûr à la maison des greffés. Quel est leur sentiment après une greffe? Est-ce que vous avez des témoignages de nous faire sentir un petit peu tout ce que ça peut apporter et changer dans une vie?
Les gens, la phrase qui revient le plus souvent, c'est la chance qu'ils ont d'avoir une seconde chance dans la vie. C'est qu'ils étaient tellement malades. Si je regarde les gens qui étaient en attente de poumons, donc qui vivaient 24 heures sur 24 avec l'oxygène, se retrouvent après la greffe, plus de fil, plus d'oxygène, respirent d'eux-mêmes. Ça, là, c'est pour eux, là, c'est une joie. Ils sont heureux, ils sont contents. Ils disent, je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, où j'étais très, très restreint à cause de la maladie. Maintenant, ils peuvent faire plus de choses après. Fait que ils redécouvrent qu'est-ce que c'est la vie.
Oui. Est-ce qu'ils ont à gérer la crainte du rejet de cet organe?
Tout le temps.
Oui.
Tout le temps, je vous dirais que même après 15 ans d'une greffe, il peut avoir des causes de rejet. Ils doivent surtout surveiller s'ils font de la température. La température est le premier signe d'un rejet. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des suivis. Ils ont des suivis tous les 6 mois, tous les ans. Les médecins veulent les voir, veulent faire des examens, voir si tout se passe bien. Donc, c'est important que les gens font leur suivi pour être suivis par les hôpitaux par la suite.
Oui, et c'est une attention constante de sa santé et de ses habitudes de vie aussi.
Ça fait. Ouais. Tout le temps prendre soin d'eux, surtout, oui. Oui.
Est-ce que vous avez dans votre rôle, Micheline, cette mission-là de rassurer aussi quand les gens soit reviennent pour un suivi ou arrivent pour cette greffe qui est attendue depuis tellement longtemps? Est-ce qu'il y a un service chez vous pour accompagner, que ce soit un accompagnement plus psychologique ou d'information également?
Oui, on donne beaucoup de support aux résidents et d'ailleurs entre eux. Les résidents entre eux se font beaucoup de support et se parlent beaucoup parce qu'ils vivent tous les mêmes choses. Nous aussi, on fait du support, du soutien. C'est sûr que l'hôpital en donne aussi, mais tout le monde essaie de faire de leur mieux alentour de la greffe pour les rassurer parce que nous, moi, j'ai quand même plusieurs expériences, plusieurs choses que j'ai pu voir. J'ai pu voir aller les greffer. Donc, je peux les rassurer de ce côté-là, mais je dirais les personnes les plus importantes autour d'eux, c'est leur famille.
Oui. 20 000 personnes, on le disait tout à l'heure, est-ce que vous avez des nouvelles de ces gens-là? Bon, on peut penser à des gens pour qui la greffe a très, très bien fonctionné. Est-ce qu'ils vous donnent de leurs nouvelles parfois?
Bien, je vous dirais que présentement, à la maison, j'ai une dame, la première résidente qui a habité à la maison des greffés en 1994. Ça fait maintenant 21 ans et est encore là aujourd'hui. Elle est là pour un suivi. Donc, vous voyez, même après 21 ans, on revoit nos gens. Les gens viennent. Elle vient au moins une fois par année nous voir faire ses examens, ses suivis. Comme je disais, c'est tellement important.
Mm-hmm.
Mais après 21 ans, les gens reviennent encore.
Ça devient une famille.
Oui.
Ouais. Après 21 ans, c'est quoi les défis qui vous attendent, Micheline?
C'est des défis de tous les jours, je vous dirais. C'est nos campagnes de financement, parce que vous comprendrez qu'à 25 $ par jour, la maison ne peut pas fonctionner, parce que quand même, dans la dernière année, on a hébergé près de 2000 personnes dans notre année. Donc ça, c'est le combat que moi, je fais tous les jours, c'est les campagnes de financement, aller chercher des sous pour que la maison puisse continuer à fonctionner. Donc c'est pour ça, si les gens sont intéressés de nous supporter, on a un site Internet qui est www.maisondesgreffes.com.
Mm-hmm.
Ils peuvent faire un don en ligne pour nous encourager. Puis d'ailleurs, sur le site, il y a plein d'informations sur la maison, tout ce qui s'y passe.
Parce que les gens peuvent dormir. Est-ce qu'il y a d'autres services? Est-ce que les gens mangent chez vous, par exemple?
Oui. Le 25 $, ça inclut l'hébergement, les repas. On a aussi des liens communs dans la maison. Il y a une chapelle, il y a une bibliothèque, il y a un gymnase, il y a une salle à manger. Ils ont leur chambre, bien sûr. Ils ont le service de navette gratuit 3 avant-midi/semaine pour amener les gens vers les hôpitaux rendez-vous. Et il y a une infirmière qui vient une journée semaine. Mm-hmm. Malheureusement, nos budgets ne nous permettent pas d'avoir plus, mais on a une infirmière qui fait une journée semaine.
Et qui peut faire soit des suivis médicaux, répondre aux questions.
Des changements de pansement, des choses, prendre la pression. Il fait des ateliers aussi, comment gérer le stress et tout ça, parce que ce qui revient beaucoup, c'est comment gérer mon stress après la greffe, gérer les médicaments, les effets secondaires et tout ça. Donc, l'infirmière est là pour répondre à leurs besoins.
Vous leur dites quoi en ce qui a trait à la gestion du stress?
On essaie de faire des petits modules de relaxation. On leur fait faire des dîners thématiques. Fait que donc, l'infirmière fait aussi la gestion du stress avec eux. On a des invités qui viennent faire des ateliers, des rencontres. Donc, on essaie de... Et quand c'est trop, bien, on réfère aussi à l'équipe médicale de l'hôpital.
Oui. La maison des greffés, vous le disiez tout à l'heure, Micheline, c'est un modèle qui est unique en Amérique du Nord. Comment ça se fait que vous n'avez pas inspiré d'autres villes, d'autres pays? C'est assez étonnant quand même, parce que c'est un modèle qui fonctionne bien et
ouais.
on le voit qui est très, très utile.
Oui, c'est peut-être les années que ça prend pour construire une maison comme ça. Quand ma mère a démarré ça, ça a pris 5 ans de démarche. Et ça a pris pratiquement 10 ans avant que le ministère la subventionne. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un gros défi à faire. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres maisons. Parce que nous, on dessert les gens de Montréal, mais je sais qu'il se fait des greffes à Toronto. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de maison des greffes à Toronto.
Et j'imagine parce que votre mère était éloignée des grands centres.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et je me rends compte aussi à quel point votre maison, Micheline, est précieuse pour les institutions de santé.
Très.
Vous devez l'entendre de la part des docteurs traitants.
Absolument. Mais juste au niveau du gouvernement, tous les sous que la maison fait économiser, si on regarde 25 $ par jour par patient à la maison, ce qui, à l'hôpital, est à peu près 1 500 $ par jour de frais. Donc, vous voyez toute l'économie aussi qui est faite auprès du gouvernement de la maison.
De là l'importance de vous encourager, maisondesgreffes.com, pour le faire. En terminant, Micheline Cyr-Asselin, votre souhait pour cette journée du 17 octobre?
Que tout le monde signe leur carte de don d'organes, qu'ils en parlent à leur famille. Et ça peut sauver beaucoup de vies.
Oui. Et d'en parler aussi, j'ajouterais, parce que c'est ce que j'observe, d'en parler aussi à vos ados, aux jeunes adultes qui sont parfois peut-être un petit peu écartés de la discussion. Je pense que ça peut s'apprendre, cette responsabilité qui est personnelle, responsabilité sociale également. Et si on n'en parle jamais, évidemment, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte n'apprendra peut-être pas ça, mais ça peut venir d'un adulte signifiant là, cette transmission-là.
Mm-hmm.
Micheline Cyr-Asselin, directrice générale de la Maison des greffés. Lina Cyr, merci beaucoup. Bonne journée mondiale de la greffe et des tissus à vous.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Lucie Poitras, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Vous êtes infirmière, présidente fondatrice et formatrice agréée de l'éthique par le cœur, également conseillère en ressources humaines agréée. Et là, pour nous parler des bienfaits de la méditation en milieu de travail, je disais tout à l'heure, on le sait, la méditation, ça a plusieurs bienfaits sur notre santé. Gestion du stress, des émotions, concentration, mais au travail aussi, on peut voir des retombées positives. Vous qui formez justement des individus, des entreprises là à la pratique de la méditation, est-ce que la méditation, c'est populaire auprès des entreprises québécoises?
Je vous dirais de plus en plus. Depuis les 5 dernières années, il y a eu beaucoup de publicités, de recherches qui ont été faites et qui ont démontré les bienfaits de la méditation en milieu de travail. Et je vous dis de plus en plus populaire parce que la situation étant ce qu'elle est criante au niveau de tout ce qui est problème de santé mentale, les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher des outils qui sont efficaces et qui vont permettre aux gens de dans le fond, de se cultiver une santé psychologique.
Oui. J'ai l'impression que les employeurs doivent parfois laisser tomber un petit peu de côté leurs préjugés pour se dire, OK, la méditation, ça peut être un outil qui est vraiment approprié pour mes employés.
Bien, tout à fait. Et en même temps, il reste encore certains mythes, certains un halo ésotérique.
Oui.
Même si tout ce qui est de la pleine conscience, c'est vraiment une pratique qui est séculière, qui est dénuée de toute pratique religieuse. Mais pour les employeurs, ça commence maintenant à être plus clair, à être plus accepté aussi comme pratique.
Oui, parce qu'on s'imagine bien dans l'intimité de notre salon, de notre chambre, méditer assis par terre, mais au travail, ça peut se faire d'une façon différente et être très, très adapté, je dirais, là, au milieu professionnel.
Bien, tout à fait. Et ça peut même commencer une journée par une méditation de 5 minutes, de 10 minutes à son bureau, tranquille, pour vraiment de se centrer et trouver l'inspiration de la journée, donner un sens à notre travail et permettre d'être plus efficace aussi, plus efficient, parce que le cerveau étant centré et, je dirais, comme les athlètes focus, bien, on va chercher beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'efficience, et c'est là où on peut aller aussi avoir des relations interpersonnelles qui sont plus agréables, du travail d'équipe qui est plus mobilisateur. Et si on est un gestionnaire, donc le travail avec nos équipes au niveau de la mobilisation, ça va être faciliter les prises de décision aussi. Donc, il y a beaucoup d'avantages que les entreprises peuvent aller rechercher avec la méditation.
Et justement, lorsque vous allez, Lucie, dans les entreprises, j'imagine que quand vous parlez aux administrateurs, vous leur dites « OK, c'est bon pour votre équipe, mais c'est bon pour vous aussi ».
Tout à fait. Et puis, j'aborde toujours la pleine conscience avec les recherches qui sont faites par le docteur Sonia Lupien sur le stress.
Ouais.
Et puis, elle publiait à la fin de l'été une recherche qui était assez intéressante. Il disait que le stress, les hormones de stress ont un effet résonant sur notre environnement. Donc, si moi, je suis un gestionnaire et j'arrive auprès de mon équipe et je suis chargée à bloc en termes de stress, même si j'ai rien dit, les gens de mon équipe, leur niveau d'hormones de stress va augmenter.
Ouais, c'est assez intéressant et ça fait, nous, un leader un petit peu moins positif.
Ben, disons que les gens sont moins portés à être en mode parce que c'est tout se fait à un niveau, je dirais, subconscient. Là, c'est pas si clair que ça. Ouais. Là. Mais les gens vont être sur la défensive. Donc, plus en mode, la collaboration sera pas aussi intense et sera pas la même non plus.
Oui, il y a un bienfait dont on n'a pas parlé, c'est les moindres coûts de la méditation. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un grand local, on n'a pas besoin de payer un formateur. Tout ça, ça coûte peu cher.
Tout à fait. Je dirais que quand une entreprise veut introduire une démarche de la méditation dans sa culture d'entreprise, je pense qu'il y a des étapes qui doivent être respectées, c'est-à-dire donner de l'information, de la sensibilisation à l'ensemble de l'entreprise, à chacun des employés, à chacun des gestionnaires. Ensuite, permettre aux gens par la suite qui sont intéressés, qui sont interpellés par cette pratique-là, c'est un outil, dans le fond, comme le yoga, comme la cohérence cardiaque, qui sont interpellés par cet outil-là, mais là, de pouvoir aller suivre une formation de base pour être accompagné, guidé dans les premiers temps afin de développer les compétences de la méditation parce que la technique est simple, mais pour arriver à développer cette compétence-là, bien, ça demande un certain temps. Donc, être accompagné en tout début. Et puis après ça, c'est sûr que par la suite, ça se fait très bien à son bureau.
Oui.
Ça se fait, oui, il peut avoir une salle dédiée pour les gens qui veulent aller méditer, aller se recentrer, mais c'est pas une obligation non plus.
Ouais.
Donc, c'est vrai que c'est une solution qui est abordable.
Ouais, qui est accessible. Vous le disiez, il faut être quand même assez constant. Quelles sont vos recommandations? Tout à l'heure, vous parliez de le faire le matin. Est-ce qu'on pourrait le faire à un autre moment de la journée?
C'est sûr que le matin, ça nous permet d'aller chercher le focus pour la journée, le calme intérieur pour passer à travers cette journée-là qui nous attend avec les défis qu'on connaît dans le monde du travail actuel. Mais souvent, j'interviens à l'heure du lunch. Et ce que les gens disent quand on fait un 30 minutes à l'heure du lunch avec eux, c'est que ça vient alléger la fatigue du matin.
Mm-hmm.
Et puis, ils ont l'impression de faire deux avant-midi plutôt qu'une longue journée de travail. Et quand ils arrivent chez eux le soir, bien, il leur reste une qualité de vie. Mm-hmm. Avec tout ce qui est conciliation, travail, famille, bien, c'est aussi gagnant pour les individus qui le pratiquent.
Ouais.
C'est vraiment une solution win-win. C'est une solution win pour l'employé, puis et pour l'entreprise aussi.
Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'après, l'employé et même le gestionnaire arrive à la maison et vous le disiez, hein, ça demeure. Donc, pour les enfants, pour le conjoint, cet état-là qui est peut-être plus positif dans l'attention, dans le focus, vous l'avez mentionné, Lucie, c'est bon pour toute la famille, là, à quelque part. Ça peut se faire en groupe, mais ça peut se faire tout seul dans notre bureau. Est-ce qu'on est accompagné par exemple, un CD ou est-ce qu'on éteint les lumières, on met des chandelles?
Non, on n'a pas besoin d'encens, on n'a pas besoin de chandelles, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut, un outil d'accompagnement, j'ai développé moi plusieurs outils d'accompagnement pour les gens, que ce soit des CD, des MP3 ou des méditations en ligne, parce qu'au tout début, c'est aidant d'être accompagné pour se ramener quand on est perdu dans nos pensées. On revient encore et encore et la voix nous est un incitatif à revenir dans le moment présent. Mm-hmm. Fait que oui, d'avoir des outils en début de démarche. Après, une fois qu'on a développé ces compétences-là à revenir, à être présent aux sensations du corps, aux pensées, aux émotions, qu'est-ce qui me stresse? Bien là, à ce moment-là, on n'a plus nécessairement besoin de l'outil.
Ça prend combien de temps avant de voir les bienfaits?
Disons que ce que Mathieu Ricard mentionnait il y a quelque temps, si on médite 20 minutes par jour, après 3 semaines, au niveau des résonances magnétiques, on commence à voir les transformations au niveau des connexions neuronales, au niveau du cerveau. Mm-hmm. Donc, c'est pas quelque chose qui est très long. Et puis, on va chercher un shift. Après 8 semaines de pratique à 20 minutes par jour, on va chercher vraiment une transformation, là, quelque chose qui s'est installé.
Lucie, l'éthique par le cœur, c'est une boîte qui initie des individus, des entreprises à la pratique de la méditation. Est-ce que vous avez été inspirée par cet ingénieur de Google qui s'appelle Chad Mengtan, j'espère bien prononcer son nom, et qui a initié ce qu'on appelle maintenant, je pense, la méthode Google, c'est-à-dire qu'il a initié ses collègues à la méditation?
Écoutez, l'éthique par le cœur est présente, est en affaire depuis 7 ans. Donc, c'était, je pense, un petit peu avant...
Alors, c'est vous, la
précurseur. Je n'oserais pas dire ça. Dans le fond, c'est une belle démarche corporative où vraiment, quand je parlais tantôt que c'est l'entreprise qui doit amener ça dans sa culture et tout ça, bien, je pense que tous les éléments sont en place. Et puis, on parle vraiment là, de gestion du stress. On parle aussi d'arriver à une meilleure connaissance de soi. Bien, qu'est-ce qui me stresse? C'est quoi les sensations quand je suis acculée au pied du mur? Puis là, parce qu'on on apprend à sortir du pilote automatique,
il y a des choses qui se passent.
Exactement.
Voilà. On quitte un petit peu cette zone de confort, mais c'est parfois là que la création s'installe, hein, quand on quitte ce qui nous fait peur un petit peu. Donc, éthiqueparlecoeur.com, pour en savoir davantage, je le rappelle, Lucie Poitras, vous êtes infirmière. Ça, c'est assez intéressant, en même temps, d'être conseillère en ressources humaines agréées. Donc, ça fait vraiment... c'est assez compatible, tout ça, pour moi, même si c'est assez novateur. Et présidente fondatrice et formatrice agréée de l'éthique par le cœur, merci beaucoup de votre présence à l'émission.
Merci, Mme Paquette.
Mathieu Tessier à la mise en onde. Je te salue, mon cher, parce que c'est ta dernière aujourd'hui. C'était un plaisir de travailler avec toi. Je t'embrasse. Je te souhaite plein, plein de succès pour les futurs projets. Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous, nous, demain. Portez-vous bien. Bye-bye.